Et tout de suite, on retrouve l'éditorial de Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Nathanaël Vitran.
La grande nouvelle de ces derniers jours, c'est bien sûr la libération tant attendue de Soumaïla Cissé, de Sophie Petronin, de deux otages italiens aussi au Mali. Ils ont pu enfin retrouver leur famille. Et l'autre facette de la vie politique au Mali, c'est la libération de dignitaires du gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté au moment du coup d'État. Tandis que les Maliens ont retrouvé, eux, un gouvernement, le Mali, ses droits et ses prérogatives au sein de la CEDEAO. Est-ce qu'avec toutes ces nouvelles, on peut considérer que le Mali va renouer avec une vie normale, Jean-Baptiste?
Non, hélas non. Mais avant de revenir sur les enjeux et défis que doit affronter ou relever le gouvernement de transition, quelques mots sur les otages. Sophie Petronin est, si l'on ose dire, un otage classique. La mode dans le Sahel ayant jusqu'alors consisté à enlever des Occidentaux en espérant monnayer cher leur libération. Par contre, prendre en otage l'homme politique le plus en vue du Mali, après le chef de l'État, était d'une hardiesse peu banal, et c'est probablement lui surtout que les djihadistes voulaient pour l'échanger contre tant des leurs. Et ce n'est guère étonnant.
Et pourquoi donc?
Parce que cet homme discret, courtois, était un réel facteur d'équilibre dans la vie politique du Mali, même s'il a fallu qu'il soit enlevé pour que le grand public réalise quel homme exceptionnel il est. Patient, modéré, profondément démocratique, légaliste. Avec le recul, même l'ancien président Ibeka a dû déplorer son absence, car s'il avait été là, jamais un imam, aussi respectable soit-il, n'aurait pu se muer en leader de l'opposition pour fédérer tous les mécontents et abréger le mandat en cours du chef de l'État. Certes, l'armée, tel un troisième larron, s'est glissée dans le jeu, mais c'est bien l'imam Diko, à la tête d'un mouvement des plus hétéroclites, qui a créé les conditions du coup d'État. Au regard de leur poids électoral, nombre des membres de ce mouvement ne pouvaient espérer être des convives au banquet du pouvoir qu'à la faveur d'une transition provoquée par la rue. Ceux-là ne sont donc que plus frustrés d'avoir été privés de leur part du butin. Et leur frustration, bientôt, pourrait alimenter les pires traquenards et même contrarier l'action du gouvernement de Mokhtar Ouane.
Ils ont pourtant annoncé que pour eux, l'essentiel, c'était d'aller aux élections.
Oui, en politique, il y a les bonnes dispositions et le fair play que l'on proclame en public pour sauver les apparences de dignité, puis les rancœurs que l'on nourrit en coulisses pour faire mal. Les Maliens ont du reste pu apprécier ces dernières semaines à quel point certains de ceux qui se battaient pour faire partir Ibeka étaient davantage motivés par la part qu'ils pouvaient prendre dans un gouvernement de transition que par le Mali nouveau que tous ont à la bouche. Ils étaient si prévisibles que lorsqu'il leur a été demandé de proposer quelques noms pour le poste de Premier ministre, ils ont aligné une liste de 14 noms. Vous imaginez? À présent que le gouvernement est formé, leurs récriminations sont de plus en plus audibles et lourdes de sous-entendus. À cela s'ajoutent les incertitudes sur la loyauté des ministres. Ira-t-elle aux intérêts qui ont porté chacun à son poste ou au gouvernement, au Premier ministre et à la nation? De la réponse à cette question dépendra la destinée du navire Mali. Il ira à bon port dans l'intérêt de tous ou très vite deviendra ingouvernable. Le peuple, demain, devrait alors retourner dans la rue pour interrompre un mandat en cours du prochain président, comme si la classe politique malienne ne pouvait supporter un chef d'État au-delà d'un mandat et demi.
Merci Jean-Baptiste Placa, c'était votre éditorial consacré à la situation malienne.